Bonjour à tous, c'est Seb pour votre émission Ça roule, l'émission de l'automobile mais pas que. Cette semaine au sommaire de Ça roule, une émission hommage à une légende du monde du rallye automobile, disparue le 27 février dernier à l'âge de 85 ans. Il s'agit du dragon Sandro Munari. Nous allons donc retracer sa carrière de ce champion qui a marqué l'histoire en pilotant les mythiques Lancia Fulvia et autres Lancia Stratos, propulsant la marque italienne au sommet du sport automobile. Son palmarès impressionnant inclut 7 victoires en championnat du monde des rallyes et un titre de champion des pilotes FIA en 1977, l'ancêtre du WRC moderne. J'aurai également un superbe témoignage à vous partager sur la disparition de Sandro Munari, car nous aurons l'honneur d'avoir une légende du rallye français, et pas que, Monsieur Tour de Corse avec 6 victoires, record qui est d'ailleurs toujours d'actualité et qui sans doute n'est pas prêt d'être battu ou égalé. Il a été l'équipier de Sandro Munari de 1974 à 1976. Il nous parlera de son ancien équipier et camarade et de la rivalité qu'il y avait entre les deux hommes. Les passionnés et autres puristes savent déjà de qui je veux parler, j'en suis sûr. Pour les autres, écoutez bien l'émission jusqu'au bout. Ça roule va donc revenir sur l'histoire incroyable de ce pilote italien hors norme qui était Sandro Munari. Sandro Munari nous a donc quitté ce 27 février dernier à l'âge de 85 ans. L'Italien restera dans les mémoires comme l'un des pilotes les plus marquants et les plus titrés de sa génération. Lui qui a illuminé les spéciales de rallye dans les années 1970. Sandro Munari a remporté la Coupe du Monde FIA des pilotes de rallye, précurseur du titre de champion du monde des pilotes de rallye FIA actuel en 1977. Né à Cavarzer, en Italie, en 1940, Sandro Munari était simplement connu sous le nom de Il Drago, le dragon. Alors pourquoi le dragon ? C'était tout simplement un mélange de charisme qui était exceptionnel chez Sandro Munari, une agressivité maîtrisée et un talent qui était exceptionnel. Il avait mis tout ça en place tout au long de sa carrière. Il impressionnait autant ses adversaires que le public. Sandro Munari est devenu une figure incontournable qui a permis à la marque Lancia de se faire un nom dans le monde du rallye, au volant des emblématiques Lancia Fulvia et Lancia Stratos. Sandro Munari avait commencé sa carrière en rallye en 1965, remportant le championnat italien des rallyes en 1967 puis en 1969. Mais Sandro Munari est surtout connu pour sa contribution à la naissance de la légende Lancia. Après 2 saisons au volant d'une Lancia Fulvia, Munari a mené la voiture à une célèbre victoire au rallye Monte Carlo de 1972. Le duo voiture-pilote remportant ensuite le championnat d'Europe des rallyes en 1973. Sandro Munari a marqué de son empreinte le rallye de Monte-Carlo. L'impressionnant italien et Lancia semblant invincible sur les routes alpines réputées difficiles pendant 3 ans. Il y a conduit la célèbre Lancia Stratos à la victoire chaque année de 1975 à 1977. Avant ses triomphes au rallye Monte-Carlo, Sandro Munari avait également permis à la Lancia Stratos de remporter la première victoire de Lancia en WRC lors du rallye de San Remo de 1974, aidant ainsi la marque italienne à décrocher son premier titre constructeur, bien aidé également par notre pilote français Bernard Darniche, alors équipier de Sandro Munari. D'ailleurs, pour l'ancien patron de Lancia, Cesare Furio, ça restera un souvenir incroyable. Il dira d'ailleurs « Je me souviens qu'au RAC, je n'avais qu'une seule voiture compétitive, avec Sandro Munari. Il aurait pu remporter cette épreuve, mais je n'arrêtais pas de lui dire qu'il devait rouler lentement, car s'il terminait parmi les 3 premiers, nous serions en mesure de remporter le championnat. Je lui ai dit de ne pas essayer de gagner, car il avait lui aussi la possibilité de l'emporter. Il a terminé 3e parce que je l'ai ralenti sans cesse. » Avec l'aide de Sandro Munari et de Bernard Darniche, la marque Lancia a conservé son titre en 1975 et remporté à nouveau le championnat en 1976, affirmant ainsi la domination dans le monde du rallye de haut niveau. Sandro Munari avait fait sa dernière apparition en WRC lors du Safari Rally de 1984. Mais au cours de sa brillante carrière, il a remporté 7 victoires en rallye, la dernière en 1977 au rallye de Monte Carlo. Toutes ces victoires en WRC ont été obtenues au volant de la Lancia Stratos. À cette époque-ci, les pilotes étaient des pilotes touche-à-tout. Et Sandro Munari ne va pas déroger à la règle. En dehors du rallye traditionnel, Enzo Ferrari lui-même l'a un jour appelé pour participer à la Targa Florio de 1972 avec la Ferrari 312 PB qu'il a remportée en compagnie d'Arturo Mesario. D'ailleurs, ce dernier dira de lui « il était très doué » car il n'était pas habitué à la puissance d'une voiture d'endurance. Nous avons passé un mois en Sicile à conduire une Dino après une série d'essais à Furiano. Il m'avait confié la voiture lors du changement de pilote et elle était parfaite. Puis en 1973, où une opportunité rare s'offre à lui, participer à un Grand Prix de Formule 1 en Afrique du Sud, Sandro Munari choisit pourtant de décliner et de poursuivre sa carrière en rallye, discipline à laquelle il restera fidèle toute sa vie. Un choix révélateur d'un pilote animé moins par le prestige que par la passion, la maîtrise technique et l'esprit d'équipe. En Italie, Sandro Munari est devenu la première star du rallye, renforçant la notoriété de cette discipline pendant l'âge d'or de la compétition entre constructeurs. Après avoir pris sa retraite de la compétition de haut niveau, Sandro Munari est resté étroitement lié à ce sport, participant régulièrement à des rallyes historiques et à des commémorations, en particulier celles rendant hommage à la Lancia Stratos. La disparition de Sandro Munari marque la perte d'un protagoniste majeur du sport automobile italien et international. Mais son héritage, lui, demeure intact. Le calendrier donne à sa disparition une résonance particulière. La marque Lancia vient d'annoncer son retour officiel en championnat d'Europe des rallyes avec 3 Y sous bannière Lancia Corse HF et participait déjà au WRC2 cette saison. La Lancia Y Rallye 2 HF Intégral a remporté le classement général du Super Sunday au Rallye Monte Carlo. Sur les routes mêmes, où un certain Sandro Munari a construit sa légende. Ce parallèle n'a rien d'artificiel. L'ombre tutélaire du dragon continue de planer sur la marque, rappelant qu'excellence et passion restent les fondements d'une légende construite sur l'asphalte et la neige. Allez, tout de suite une page musicale avec Laura Pozzini, la Solitadine, et nous nous retrouverons tout de suite après avec une interview exclusive de Monsieur Tour de Corse, ancien équipier, rival et camarade du regretté Sandro Munari, disparu le 27 février dernier à l'âge de 85 ans. Il nous parlera donc de son équipier. A tout de suite!
Pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Na 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 na.
occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore e sento che ci sei. Fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai. A scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile. Tutte le idee si affollano su te. Non è possibile dividere la vita di noi due. Ti prego aspettami, amore mio, ma illuderti non so. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego,
c'était Laura Pozzini avec La Solitudine. Tout de suite, nous retrouvons donc cette émission hommage à Sandro Munari, le pilote italien de cette marque Lancia sur sa Lancia Stratos. Et pour nous parler de lui maintenant, une interview exclusive d'un monsieur, d'un grand monsieur, d'un grand pilote français, qui est notre monsieur Tour de Corse à nous, avec 6 victoires, j'ai nommé le grand par le talent Bernard Darniche. Le 27 février dernier disparaissait donc à 85 ans une légende du rallye mondial, Sandro Munari, surnommé Il Drago, on l'appelait le Dragon, pour son mélange de charisme, d'agressivité, de maîtrise et de talent exceptionnel qu'il avait. Il impressionnait autant ses adversaires que le public. Il fut l'un des grands artisans de l'épopée Lancia dans les années 70, au volant de l'iconique Lancia Stratos HF. Pour évoquer l'homme, le rival et l'équipier, le camarade, quoi de mieux que de recevoir aujourd'hui celui qui a partagé cette aventure de 1974 à 1976 chez Lancia en tant qu'équipier, une de nos légendes françaises, notre monsieur Tour de Corse à nous, avec 6 victoires, record historique toujours en cours, qui n'est pas prêt d'être battu. Les passionnés savent déjà de qui il s'agit. Pour les autres, c'est monsieur Bernard Darniche. Bonjour Bernard, tout d'abord, merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps afin de nous parler de votre ancien rival, coéquipier et camarade de chez Lancia, le Dragon Sandro Munari, disparu samedi dernier à l'âge de 85 ans. Alors, tout d'abord, Bernard, quel souvenir vous revient en premier quand on évoque Sandro Munari ?
Oui, eh bien, bonjour à tous. C'est un morceau de ma vie qui s'en va. Évidemment, chaque fois qu'un pilote de l'époque ou une personne de l'époque avec qui j'ai travaillé ou que j'ai côtoyé s'en va, c'est un morceau de vie qui s'en va, hein. Une vie qu'on a partagée en commun et évidemment qui... Ces vies extrêmement remplies qu'on a eues sont parsemées d'amis, de concurrents, enfin c'est la vie comme on dit. Alors pour Sandro, la première fois où j'ai eu entre guillemets affaire avec lui, je crois que c'est en 72, j'étais chez Lancia, Et donc, on était au rallye de Monte-Carlo et on avait... Avant de rentrer la voiture à Monaco, j'étais premier. Lui, il avait une HF 1600, une Lancia HF, pas encore la Stratos, une HF 1600, une Lancia, magnifique d'ailleurs, track avant, qui marchait très bien.
La Fulvia.
Et avec l'Alpine, voilà, Fulvia. Et nous étions devant. Et au moment, quasiment en vue de l'arrivée du parc fermé, pas de l'arrivée, puisque la dernière épreuve avait été courue, mais juste avant d'arriver à Monaco, ma boîte s'est bloquée au milieu d'un carrefour. J'ai jamais pu rentrer la voiture au parc fermé, donc c'est Sandro qui a gagné. Donc ça a été pour moi une mise en relation avec lui qui a été jusqu'au bout laborieuse. Quoi. Voilà, il a gagné. J'avais pas eu l'impression que j'avais démérité. Évidemment que non. C'est ma boîte qui avait démérité. Mais en même temps, j'étais content parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Comme tous les pilotes italiens, d'ailleurs, qui étaient des gentlemen, des très grands pilotes, comme les pilotes français. Mais bon, évidemment que j'étais très déçu, mais ils gagnent, comme on dit. Hein, ce sont les aléas de la course, ils gagnent, point final. Après, j'ai continué chez Alpine jusqu'en 1974, et après, je suis passé chez Fiat, voilà.
Vous avez dit de lui, d'ailleurs, que c'était Sandro Munari, l'aristocratie à l'italienne.
Oh, oui, oui, oui. Mais comme tous les pilotes de l'époque, je pense pas qu'en Italie, à cette époque-là, il n'y avait pas de formule de promotion, comme on dit, qui donnait accès à des petits gens, hein, comme moi, au sport automobile. Nous, on avait la Coupe Gordini et toutes ces formules de promotion qui permettaient à des gens de conditions très, très modestes de sortir la tête de l'eau et en gagnant des courses, se faire remarquer et finalement, percer dans ce monde-là, c'est un monde interdit. Quand on n'a pas d'argent, c'est un monde interdit. Hein. C'est la compétition automobile, surtout moi qui étais coureur cycliste, c'était un monde qui était tellement loin de moi. Je n'avais même jamais eu l'idée un jour, jusqu'à l'âge de 25 ans, de pouvoir un jour arriver à entrer dans ce milieu totalement fermé de la compétition automobile. Mais donc en 1974, je suis parti de chez Alpine parce que je me suis rendu compte que l'arrivée de Renault allait être laborieuse. Vous savez, on peut pas faire cohabiter une marque de désir absolu, à savoir la marque Alpine. C'est une marque de désir absolu, quoi. C'est une voiture qu'on vient pas vous la vendre, vous l'acheter parce que vous en avez furieusement envie. Et puis quand j'ai vu arriver Renault, qui est le contraire de la marque Alpine, c'est une marque d'usage raisonnable. On achète une Renault parce qu'on vient vous la vendre, en fait. Hein. C'est pas par plaisir. Hein. On roule pas dans une Renault par passion. C'est par bon sens, parce qu'on a besoin d'une bonne voiture pour travailler, etc., ou partir en vacances. Mmh. Mais quand j'ai vu ces deux marques en cohabitation, il n'y avait plus de dialogue possible avec les ingénieurs. Et moi, je ne suis pas un pilote à droite, hein, je ne suis pas un acrobate. Donc, il me fallait une auto réglée pour moi, alors que les ingénieurs commençaient à m'expliquer que on va régler l'auto, puis tu te démerdes avec. Moi, c'est pas ça le truc. Hein. J'étais pas ragnoté, je ne suis pas terrier, je ne suis pas tout ça, je suis pas... Il me fallait une auto réglée pour moi, autrement ça marche pas.
Vous êtes Bernard Berniche.
Voilà, j'ai vu qu'il fallait que je parte ailleurs. Et chez Fiat à Turin, ils m'ont fait une proposition qui me convenait parfaitement, à savoir développer la Fiat X9. Et vous verrez, ça arrive directement sur notre cohabitation avec Munari. Donc en 1975, je suis pilote Fiat avec une mission, développer la Fiat X9. Et puis très rapidement, en 6 mois, les gens de Fiat et Lancia se rend compte qu'avec la Fiat X9, on va être plus performant qu'avec la Stratos. Là, ça commence à gripper dans les engrenages, comme on dit. Et M. Fiorio, qui était un homme qui était le patron de l'équipe Lancia, mais avant tout un homme politique de très grand talent, à moitié de l'année, m'a fait supprimer la Fiat X9. Voilà, supprimer le programme. Et donc, à moitié d'année, j'étais pilote Fiat, mais sans programme. J'étais salarié. Enfin, j'étais payé pour regarder les autres courir. Donc, évidemment, ça ne me convenait pas. Et c'est comme ça que j'avais pas le choix, hein. Si je voulais continuer à courir, il fallait que je loue une voiture, que je me débrouille pour m'en trouver devant une voiture du groupe Fiat. Il n'y en a pas 36, il n'y avait pas de Fiat, il y avait une Lancia, la Lancia Stratos. Et j'ai loué cette voiture à Bob Néret. Et d'un seul coup, mais brutalement, je me suis retrouvé en concurrence directe avec Sandro Munari et l'équipe officielle, évidemment, au Tour de France 1975, où les trois, Lancia officiels sont engagés au Tour de France Auto, départ à Nice, et moi avec ma voiture de location, où les gens de chez Lancia, l'usine, ne me regardaient même pas. Sauf qu'au petit matin, après un déluge toute la nuit dans l'arrière-pays niçois, le Turini et tout ça, ben j'étais premier. Donc les voitures officielles avaient disparu, j'étais premier, et j'aurais apporté cette première victoire au Tour de France. Ça a été déjà une façon de me faire remarquer d'une façon positive, mais en même temps en suscitant un tout petit peu d'emmerdement et de jalousie vis-à-vis de l'équipe Lancia, évidemment. Voilà. Cette relation avec Sandro, c'était « je t'aime moi non plus », en gros, hein, c'était ça. Hein.
Ouais, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, sur la Lancia Stratos, Bernard, qu'est-ce qui différenciait votre pilotage du sien ?
Ah ben, j'étais beaucoup plus académique. Hein. J'étais pas un pilote de rallye. J'ai jamais été un pilote de rallye, moi. Je me suis adapté au rallye. J'ai rien appris. Je suis jamais allé dans une école de pilotage. Mais j'ai cette sensibilité. Et surtout, j'ai été 3 ans coéquipier à côté d'un pilote qui s'appelle Michel Loiseau, qui avait... Vraiment, j'avais pas de jugement. Moi, je savais pas de... Je sortais des pelotons cyclistes. Le hasard m'a mis à côté de lui comme coéquipier pour m'amuser, pour et puis coéquipier attitré. Mais pendant 3 ans, j'ai vu un garçon qui conduisait d'une façon extrêmement sûre, précise, sans jamais glisser. J'ai tout appris par mimétisme, en fait. Et le jour où il a voulu me faire conduire, j'ai conduit comme ça, puis j'ai commencé à gagner. C'est assez simple, hein. Mais jamais de glisse. Pour moi, quand... la voiture partait en glisse, c'était qu'il y avait eu un loupé, une erreur d'appréciation, une faute de note, ou une exagération dans l'approche du virage, etc. Pour moi, la glisse est un loupé. C'est ce qu'on constate aujourd'hui en F1. Hein. Aussitôt qu'ils ont une toute petite correction au volant, c'est 1/10 qui s'en vont et 5 places sur la grille. Hein. Tout le monde le sait. Hein.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Sandro Munari était-il plus attaquant ou plus stratège ?
Il était très attaquant, très très attaquant. Le stratège, c'était Furio, son patron, hein, ouais. Qui était un stratège redoutable, redoutable. Et quand je suis arrivé au milieu de tout ça avec la Stratos rouge, ça a été terrible parce que, donc le Tour de France, première victoire, je réussis à convaincre les sponsors et M. Chardonnay de continuer à m'aider, mais on n'était pas dans la France, c'était pas Chardonnay, c'est une voiture qu'on louait avec des bouts de ficelle à Bob Néré, hein, et on se présente donc au Tour de Corse avec notre Lancia de location, là c'était championnat du monde, et au départ personne ne nous regardait, l'équipe officielle ne voulait même pas qu'on aille dans le garage avec une voiture de location, entre guillemets, ils regardaient ça dédaigneusement. Hein. Mmh. C'est vrai que c'était une voiture quasiment de série, avec des petits freins, petits moteurs, etc. Sauf qu'en Corse, encore une chance incroyable, beaucoup de pluie, beaucoup de brouillard, et au lever du jour j'étais en tête. Et Sandro était sorti, les autres n'étaient plus là, je ne sais plus ce qu'ils ont eu, mais enfin, j'étais tout seul de chez l'ancien, encore à défendre les couleurs de la marque. Et je me battais contre mon ancienne équipe, à savoir Jean-Pierre Nicolas, qui était au volant d'une Alpine, voilà. Et on leur a amené le titre de champion du monde, chez l'ancien, au détriment de l'équipe Alpine. Ça a été un grand choc pour moi d'enlever un deuxième titre. Ça a été très difficile pour moi.
Oui.
Et Alain Mahé de casser cette espèce d'amour que nous avions pour la famille Alpine. Enfin, à un moment, il faut bien choisir, parce que j'avais choisi de faire ma vie dans ce monde-là, ou une partie de ma vie, et à un moment, il faut arrêter de vouloir faire des cadeaux, il faut y aller, comme on dit. Autrement, on est jeté du système. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Sandro Munari était plutôt Monte Carlo ou Tour de Corse ? Où était-il le plus impressionnant, à votre avis ?
Vous voulez que je vous dise exactement mon sentiment ?
Mais bien sûr !
Il m'a jamais impressionné. Hein.
Ah d'accord.
Ah non, non.
On n'impressionne pas Bernard Darniche.
Non, j'étais pas impressionné. Il faut quand même rappeler que les Stratos d'usine, la sienne en l'occurrence, étaient équipées d'un moteur 24 soupapes qui avait 40 chevaux plus que la mienne. Hein. Tout le monde l'oublie ça. Hein.
Tout à fait.
Mais moi j'avais un gap de 40 chevaux. Donc, je vais vous dire pourquoi il m'impressionnait pas. Parce qu'en Corse, avec la longueur des épreuves, comme en 76, où on avait des chronos de 170 km, avec ma condition physique de coureur cycliste, vraiment, j'arrivais à compenser les 40 chevaux, hein, vraiment. Par contre, Monte Carlo, après, sur des épreuves de 20 bornes, où la performance de l'auto est quasiment intouchable, j'arrivais pas à m'en sortir, quoi, avec 40 chevaux de moins, plus le fait qu'il soit dans une équipe d'usine avec l'assistance pneumatique. Nous, on était une équipe privée quand même. Hein. Donc, au Monte Carlo, c'est vraiment plus l'auto qui fait la différence que le pilote. En Corse, je m'en sortais. Pourquoi ? Parce que c'est plus le pilote qui fait la différence que l'auto, la preuve. Puisque quand il me collait une Fiat, il gagnait quand même devant le lancer officiel. Hein. C'est vraiment l'auto qui fait la condition physique qui fait la différence. Quoi.
D'ailleurs, Bernard, pouvez-vous, s'il vous plaît, pour nos auditeurs, revenir sur ces 16 secondes à l'arrivée entre Sandro Munari et vous au Tour de Corse 76 qui ont contribué à écrire votre légende et celle du monde du rallye. 16 secondes seulement ont séparé à l'arrivée donc le Tour de Corse en ce dimanche 7 novembre. Le vainqueur, donc Sandro Munari, de son second Bernard Darniche. C'est un peu pour 24 heures de course, après un parcours de 1300 km jalonné de plus de 20 000 virages. Le classement final est d'ailleurs donné lieu à beaucoup d'incertitudes. Et c'est en fin de compte une pénalisation routière d'une minute qui a décidé du classement en faveur de Munari plutôt que vous. Mais le plus rapide sur les routes corse avait bien été vous-même, Bernard.
Oui, on était plus rapide, malgré le gap de 40 chevaux. Hein. Mais encore une fois, moi, en sortant des pelotons cyclistes, je sais pas, les gens ne se rendent pas bien compte ce que c'est qu'un chrono qui fait 170 km en Corse. 170 km de chrono en Corse. On peut pas imaginer ce que c'est en termes de dépenses physiques. À tel point que justement sur ce chrono où je partais derrière Sandro, à moitié du chrono, je double, on voit la stratos de Sandro devant, on le double, et quand j'arrive à l'assistance, je dis tout de suite, je vais voir Fiorio, et je vais lui dire, il y a un problème, il doit avoir un problème de boîte ou de pont, je ne sais quoi, de moteur, il avance pas, il a un problème mécanique. Et quand on a vu arriver Sandro, eh bien, c'était pas un problème mécanique qu'il avait. Il pouvait pas descendre de la voiture. Il avait des crampes aux jambes, aux bras, partout. Il a fallu le descendre, l'étaler par terre, appeler les toubibs et tout. Il était complètement cramé, comme on dit. Hein. Ouais. Et moi, je l'avais doublé sur les chronos, malgré le fait qu'il ait 40 chevaux de plus. C'est pour ça que je vous dis qu'il m'impressionnait pas, parce qu'il m'a jamais impressionné. J'ai pas l'habitude de dire des choses que je pense pas. Il faut jamais oublier que nous, on était une équipe faite pas avec des bouts de ficelle. On avait tous les moyens, mais pas les moyens de l'usine, quoi. Ouais. Et justement, en 76, on avait un accord avec Monsieur Chardonnay juste pour l'année. Et donc, en Corse, en 76, quand Fiorio nous oblige à prendre une minute de pénalisation pour laisser gagner Munari, c'est avec l'échange d'un budget pour l'ancienne France. Mais ça, je l'ai appris 40 ans après. Je me demandais pourquoi M. Chardonnay me demandait de laisser gagner Munari. Sur le moment, c'est incompréhensible, quoi. Pourquoi incompréhensible ou non, parce qu'en même temps, Chardonnay était le distributeur de Lancia, donc ils avaient des accords commerciaux. Enfin bref, c'était vraiment je t'aime, moi non plus. Mais il s'avère que j'ai été obligé de le laisser gagner. Et l'année d'après, donc pour ne pas renouveler le fait de cette ambiguïté d'un pilote privé qui est devant les pilotes officiels, il m'oblige à conduire une Fiat. Mais l'ancien officiel en 77 était engagé. L'ancien officiel était engagé. Ouais. Et moi j'avais la Fiat. Et donc sur le papier, il n'est même pas envisageable qu'avec une Fiat, on soit devant une Stratos 24 soupapes de 320 chevaux. C'est juste pas possible. Donc ils étaient certains de leur coup que je les emmerderais pas. Sauf qu'encore une fois, je le répète, ma condition physique qui était mais infiniment meilleure que tous ces garçons, je sortais des pelotons cyclistes, moi, hein, c'est pas... Et à haut niveau, hein. Donc, petit à petit et à moitié de la course, je me retrouve en bagarre. Je crois que Sandro était sorti cette année en 77, il était sorti. Donc, je me bagarrais avec Pinto, qui avait une Stratos officielle, et finalement, Pinto fait deuxième derrière nous, et on regagne. Et l'année d'après, on recommence. Il me redonne une Fiat alors que ma Stratos était consignée au garage, comme on dit. Hein.
Ah bah oui, oui.
Enfin, ils m'ont quand même tout fait. Hein.
Ouais, complètement.
J'ai quand même regardé les choses comme elles sont. Hein. Et donc, en 76, on gagne. On laisse gagner Munari. En 77, on gagne avec la Fiat. En 78, on regagne avec la Fiat. En 79, on gagne avec une Stratos parce qu'ils nous foutaient la paix. Ils n'étaient pas venus avec les Stratos officiels, donc on gagne en 79. Et en 80, ils recollent une Fiat, et c'est là où j'ai fait cette très mauvaise rencontre, où Fréclin me pousse jusqu'à m'envoyer dans le trou avec lui d'ailleurs, parce que les voitures se sont accrochées. Il était avec Todd, ces deux abrutis n'ont pas compris que sur une toute petite route, on ne peut pas doubler, et que ils n'avaient pas compris que j'avais été arrêté derrière un arbre, ils pensaient qu'ils étaient plus rapides que moi. Fréclin plus rapide que moi encore, ça saurait quand même. Hein. Il n'a jamais gagné une fois, moi je l'ai gagné 7 fois, je peux dire quand même. Hein. Donc ouais. Ça saurait s'il était plus rapide que moi en Corse. Et manifestement, ils ont pété les plombs, parce que on peut dire que Todd a un super cerveau, mais il y a des moments, j'ai l'impression qu'il l'a oublié à l'hôtel hein, quand même. Hein. Parce que moi, j'ai rien dit sur le moment. Ils ont fait une conférence de presse en disant que j'avais essayé de les tuer. Comment on peut persuader le monde de l'automobile qu'en étant devant quelqu'un, on le vire? C'est celui qui est derrière qui a toute l'attitude à virer un mec qui est devant, mais pas le contraire. Et donc, moi, j'ai laissé passer, j'ai pas voulu répondre. Sauf que maintenant, avec les réseaux sociaux, 50 ans après, je dis les choses comme elles se sont passées, c'est tout. Il y a toujours un moment où la vérité rattrape les mensonges. Toujours, 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 toujours.
Oui, tout à fait, Bernard. Sandro Munari, quel homme était-il derrière le pilote, ce monsieur, ce grand monsieur?
Ah, c'était un homme, on a envie d'être ami avec, pour tout vous dire. Sa femme était une à l'époque, une jeune femme magnifique d'abord, magnifique physiquement, gentille. Ce sont des gens gentils, c'est une belle famille. Enfin, tous les pilotes que j'ai connus, mais Sandro, il avait cette attitude un peu pas hautaine, un peu distante, qui lui donnait cette espèce de comment dirais-je,
de charme.
De charme, oui, c'était un d'abord beau garçon, charmant. Il se tenait très droit. C'est pas qu'il était dédaigneux, pas du tout. C'est qu'il avait cette attitude naturelle que beaucoup de gens n'ont pas. Il avait la classe, comme on dit, hein. C'est assez simple à résumer. Il avait la classe. Sa femme avait la classe. Tous ces gens avaient la classe. Et moi, j'étais, faut jamais oublier que je sortais de l'usine Testu, hein. J'étais ajusteur chez Testu. J'étais pas du tout de ce monde-là. Et j'admirais beaucoup tous ces gens, parce que je n'avais pas, ce qu'ils avaient eux. Voilà. J'admire toujours les gens qui sont supérieurs. Moi, j'ai pas de jalousie pour les gens qui me semblent être mieux que moi. Au contraire. Je veux être tiré vers ces gens.
Oui, complètement.
Ça tourne le monde dans la vie. Hein.
Complètement. Une image qui vous reste de lui, Bernard?
Ah ben, c'était cette image. Ils l'ont sorti de la voiture en 76, le tout bip, tout le monde l'a sorti de la voiture. Il était tendu sur une couverture dans le garage Lancia. Il souffrait, il avait des crampes partout. Et j'étais sûr qu'il ne repartirait pas. Et bien, il est reparti. Il est reparti jusqu'au bout et on s'est battu jusqu'au bout. Et on est obligé de reconnaître le courage d'un pilote quand on le sent diminuer physiquement, mais qu'il se bat jusqu'au bout. C'est chapeau, comme on dit. Hein. Moi, j'aime mieux un concurrent comme ça qui ne baisse pas les bras. Bon, même si j'étais à la fin obligé de le laisser gagner, c'est pas de son fait. Hein. Moi, j'en ai jamais voulu à Sandro d'être protégé par Fiorio. C'est un fait. Si j'avais été à sa place, ben je l'aurais accepté pareil. C'est pas de sa faute à lui s'il était pilote officiel Lancia Turin. À l'usine, et moi pas. C'est les hasards de la vie qui ont fait ça, mais j'ai jamais été jaloux de lui, mais jamais. Je m'en serais voulu d'être jaloux de ce garçon, vraiment. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, que représente son départ pour le monde du rallye automobile?
Ben c'est un morceau de ma vie qui s'en va, hein, c'est simple. Hein. Mmh. C'est un vrai morceau de ma vie qui s'en va, parce que qu'on le veuille ou non, il y a eu ma famille alpine qui a peut-être le plus compté dans ma vie d'approche. Ça a été mon apprentissage de pilote parce que je sortais de nulle part. Hein. Quand j'ai signé en 70 chez Alpine, en 68, je débutais à la Coupe Gordini hein, quand même. Hein. Donc j'arrivais de nulle part. Hein. Et Génis m'a fait confiance. Mais pendant 3 ou 4 ans, j'ai fait mon apprentissage de pilote. Mes coéquipiers Terrier et Nicolas m'ont aidé à comprendre comment ça glisse. Avec cette retenue à glisser que j'avais moi, ils m'ont appris à m'en servir, etc. Ils m'ont tout appris. Quand j'ai basculé chez Fiat, évidemment, ça a été la plus grosse partie de mon palmarès. Hein. Ça a été très ambigu. J'aime le répéter. J'avais des rapports de résultats incroyables, puisque je crois rien qu'avec les voitures du groupe Fiat, j'ai une cinquantaine de victoires quand même, hein, entre les Fiat, les Lancia, etc. Mais j'ai appris à être raisonnable. Parce qu'avec la Lancia, je suis le seul à avoir eu ce palmarès. 43 victoires, sans une seule sortie de route. Hein. Je ne suis jamais sorti de la route avec une Stratos. Je suis le seul, hein. Il n'y en a pas 50, hein, il y a que moi, qui n'ai pas cassé de voiture. Et 43 victoires quand même. Donc, je suis très attaché à cette marque, évidemment. Et en même temps, j'ai cette espèce de difficulté au quotidien, parce que Charbonnet me mettait la pression, ce qui est normal. Hein, un patron met toujours la pression sur son employé. Mais en même temps, j'avais l'impression que si je faisais la moindre connerie, il arrêtait tout, parce que ça coûte cher la course. Et si j'avais simplement cassé une voiture, je pense qu'il aurait tout arrêté. J'avais un contrat qui se renouvelait d'année en année, mais si j'avais fait une connerie, tout serait arrêté. Mais ça m'a aussi peut-être servi à conduire plus avec ma tête qu'avec mes bras. Je savais que j'avais pas droit à l'erreur, et ça m'a certainement servi à construire un palmarès. Oui, certainement.
Ouais, complètement, complètement. Enfin, en trois mots, si on peut résumer Sandro Munari, c'était quoi, c'était qui ?
Sandro Munari, ça a été le pilote de référence chez Lancia, qui m'a permis de me créer une réputation au volant de cette voiture. Mais sans lui, imagine, vous savez, toujours raisonner par l'absurde, c'est comme ça que je raisonne. Imaginons que je fasse ma carrière sans Sandro Munari. Et je n'aurais pas existé de la même façon, c'est évident. Me battre contre un super champion comme ça, pilote d'usine chez Lancia, ça m'a donné de l'épaisseur. S'il n'avait pas été là, il serait passé quoi ? J'aurais gagné des courses, oui, plein d'autres bons pilotes, mais pas devant Sandro Munari. Et la référence, c'était quand même Sandro Munari. C'est lui qui m'a certainement aidé à créer mon environnement et ma crédibilité comme pilote, certainement.
Oui, ouais, ouais, c'était pour vous une référence. Et
ah oui, voilà. Ah oui, incontestablement, ouais. Incontestablement.
Ouais, ouais. Et c'est quelqu'un qui vous a peut-être aussi aidé à vous surpasser parfois.
Ah ben j'étais obligé de me bouger le cul, comme on dit. Hein. Ça a commencé 72 quand il avait la Fulvia. Pour arriver devant avec l'Alpine, il a fallu qu'on se bouge le cul. Vraiment, c'était pas évident. Hein. Toutes les victoires à l'époque, les rallyes de l'époque étaient tellement longs, jour et nuit, plusieurs jours, plusieurs nuits, qu'il fallait déjà gérer sa propre fatigue, ses propres difficultés. Et avant de penser à gérer la compétition avec les autres. Hein. Mais quand on arrivait au bout en tête d'une course comme ça, c'était pas le championnat du monde WRC aujourd'hui. Hein. Pour moi, c'est le Club Med. Ils sont au Club Med, hein, tous là, quand même. Ils font trois épreuves dans la journée. Et puis, ils se dépêchent à vite finir la dernière avant que la nuit tombe, parce que ça les emmerde de conduire la nuit, quand même. Hein. On en est là. Hein. Il faut appeler un chat un chat.
Ouais,
c'est comme ça que ça se passe.
C'est vrai.
Soi-disant, ils s'abritent derrière le comment dirais-je, le risque, le danger s'ils sortent la nuit. C'est pas faux, mais nous, on n'y pensait même pas.
Et puis peut-être que le règlement aujourd'hui les aide dans ce sens quand même.
Oui, ça les... mais tant mieux pour eux. Hein. Moi, franchement, ils gagnent beaucoup d'argent, ils bougent pas beaucoup le cul. franchement, c'est magnifique pour eux. Hein. Franchement.
Eh ben, écoutez, en tous les cas, Bernard, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions concernant donc la disparition de Sandro Munari. Au-delà donc des spéciales, des chronos et des titres, hein, puisqu'on le rappelle quand même, il a été titré en 1977, hein, pilote FIA, hein, puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore le championnat du monde des pilotes des rallyes comme on le connaît aujourd'hui. Souvenir donc d'un rival d'exception, hein, un équipier loyal. Les légendes ne disparaissent pas vraiment, comme on dit, elles continuent de rouler dans nos mémoires. Merci Monsieur Munari et bonne route à vous. Merci Bernard.
Ben, merci et un bonjour très très amical à tous les passionnés automobiles qui nous écoutent et qui évidemment pour la plupart n'ont pas connu cette époque.
Mais oui, complètement, mais c'est si bien raconté par vous et franchement, s'il en fallait qu'un, il vous fallait vous. Voilà. Merci Bernard.
C'est gentil de l'entendre. Mais j'ai jamais eu l'impression d'être quelqu'un d'extraordinaire. J'ai la certitude, par contre, d'avoir essayé de faire au mieux mon métier. Voilà, c'est tout.
Eh bien, écoutez, merci encore. Voilà, c'était le grand par le talent Bernard Darniche. Je voulais donc vous partager donc cette interview exclusive sur son ex-équipier, rival et camarade, le grand Sandro Munari. Voilà, donc comme je le dis toujours, le temps qui nous était imparti est parti. Cette émission se termine avec cet hommage donc sur la légende italienne des rallyes, El Drago, le grand Sandro Munari. Bonne route, monsieur Munari. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça Roule. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et une très bonne route.